écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Le groupe belge Puggy a sorti cette semaine un nouvel album. On verra s'il faut l'écouter avec Thierry Coljon.
On vous emmène à Mons dans un instant. On a suivi les préparatifs du Festival des Lumières.
Mais d'abord, c'est raté. Le gouvernement voulait un mécanisme pour éviter une crise après les élections, mais n'a pas réussi à se mettre d'accord.
Je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sandrine Puissant.
À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
541 jours pour mettre sur pied le gouvernement Di Rupo, 493 avant le gouvernement de Croo, les partis de la coalition Vivaldi avaient l'intention de prendre les devants.
Et de mettre sur pied un mécanisme pour éviter à l'avenir ces périodes d'instabilité. Mais une fois de plus, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On en parle avec David Coppi, journaliste au Pôle Pouvoir. Bonjour David.
Bonjour.
Dans l'accord de coalition du gouvernement Vivaldi, il était prévu de réfléchir à un mécanisme pour essayer d'empêcher une crise de formation du gouvernement.
Oui, c'est ça. Dans l'accord de gouvernement fin 2020, donc il y a au chapitre renouveau politique, il y a quelques phrases indiquant qu'il est déplorable à la longue que la formation des gouvernements en Belgique prenne autant de temps. Le terme utilisé, c'est que les négociations gouvernementales s'éternisent et que donc il est conseillé, lit-on, de trouver une formule afin d'écourter les négociations après les élections, quels que soient les résultats, avec un délai officiel, enfin une formule à trouver, mais qui n'a pas été trouvée.
C'est ça, on va y venir évidemment. C'est la commission constitution de la Chambre qui s'est penchée sur la question. Il y avait différentes propositions qui venaient des différents partis.
Oui, c'est ça, mais je pense que, en fait, oui, cette commission s'est réunie assez brièvement, je pense. Il y a eu l'audition de quelques experts, puis des formations politiques ont fait part, plus que sur la table du Parlement, je dirais, dans les médias, parfois de quelques idées mais éparses. Mais en réalité, bon, il faut quand même être juste. Il n'y a pas eu vraiment de processus de réflexion ni d'analyse sur la façon de réduire le temps de négociation après les élections. C'était une idée dans l'accord de gouvernement, elle restait une idée un peu dans l'air. On n'a jamais pris les choses vraiment en main dans les législatures et maintenant on en reparle à gauche à droite, mais au sein du gouvernement, les contacts qu'on a pu avoir nous le confirment de façon assez évidente, c'est qu'il est trop tard et puis on n'avancera pas. Et puis de toute façon, comment faire en sorte de réduire la durée des négociations quand les résultats des élections sont très compliqués. Il n'y a pas de formule magique. Mais disons que ce qui tournait un petit peu, notamment les Verts ont déposé quelque chose dans ce sens-là, c'était l'idée globale de se donner 3 à 6 mois pour former un gouvernement fédéral. On parle bien là du fédéral, hein. Donc pour former un gouvernement fédéral, et puis si après 3 à 6 mois, ce n'est pas possible, aller aux élections, retourner
oui, c'est
aux urnes.
Dissoudre voilà. La Chambre
en
et retourner
gros, c'est
aux
ça,
urnes.
Voilà. Et puis alors, il y a une proposition un peu parallèle, c'était de, au bout de 3 mois, remettre un peu les discussions dans les mains des chefs de groupe à la Chambre, les chefs de groupe au Parlement, qui eux-mêmes alors prendraient les choses en main, tenteraient d'aboutir, et si on n'aboutit pas, alors on irait vers une dissolution.
Il y a aussi une idée qui avait été lancée, qui se calque un peu sur le modèle bruxellois, de, au final, mettre les choses dans les mains des régions. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord au fédéral, eh ben, on passe à l'étage en dessous des entités fédérées pour laisser la décision là.
Mais là, alors, on va se heurter à une discussion infinie institutionnelle, parce qu'on sort un peu du modèle fédéral.
C'est une proposition de la NVA.
Voilà, on rentre dans un modèle de type confédéral, où c'est les régions qui décident un peu pour tout le monde. Et ça, je pense, du côté francophone, mais aussi du côté flamand, différents partis, on en est un peu revenu de ça. Je pense que c'est pas possible. En réalité, vous le savez, je voyais qu'en effet, sur les 50 dernières années, c'est toujours des chiffres un peu rigolos, il y a eu 6 années de négociations en Belgique pour la constitution des gouvernements fédéraux. Donc 6 ans, c'est quand même beaucoup, hein. Les plus longues, les dernières qu'on a connues, donc c'était en 2010-2011, 541 jours.
La formation du gouvernement
Di Rupo. Et puis alors en 2019-2020, 494 jours, quoi. Donc on a failli battre le record à une cinquantaine de jours près. Alors dans tous les cas, vous aurez constaté que les deux dernières grandes négociations qui ont traîné, c'était pour contourner la NVA. Donc le gouvernement Di Rupo, c'était pour conclure un accord institutionnel et contourner la NVA dans l'exécutif fédéral. Et le dernier gouvernement, la Vivaldi, c'était aussi finalement le grand challenge, c'était de contourner la NVA. Et là, on bute sur le problème central, c'est-à-dire il y a un vote qui s'exprime du côté flamand de façon récurrente ces dernières années, certainement avec la NVA très forte. Et puis alors, on constitue des gouvernements où la NVA ne figure pas, on la laisse sur le côté. Est-ce bien logique? Est-ce bien normal? That's the question.
Merci beaucoup David.
Merci.
Un parcours artistique de 3 km en plein cœur de la ville de Mons, c'est ce que promet le tout premier Festival des Lumières de Wallonie qui illuminera la ville pendant 2 week-ends, celui qui arrive et le suivant.
En tout, 26 œuvres sur le thème du surréalisme seront exposées dans les parcs, les places et au détour des rues. Lila Maître a suivi pour à propos les coulisses et le montage de cette première édition.
Près de la collégiale Sainte-Vaudru, l'artiste invité de cette première édition du Festival des Lumières de Mons, Robert Montgomery, installe l'une de ses œuvres. Grand, cigarette au bec, pantalon en velours et visseuse à la main, l'artiste écossais finalise la mise en place des lettres lumineuses qui composent sa phrase poétique, inspirée du poète belge Paul Nouget.
Nous sommes en train de construire la structure et une fois que ce sera terminé, on l'élèvera pour qu'elle illumine la place. Je réinterprète une série de textes des années 30, mais pour le 21e siècle, cette œuvre dit « À l'intérieur de nos têtes, il n'y a pas cette matière grise dont on vous a parlé, mais un paysage d'où jaillissent des sources d'eau fraîche qui s'écoulent des montagnes et un nuage de rêve à la lisière de la ville miraculeuse. »
Un peu plus loin, dans la collégiale cette fois, le duo d'artistes de Magic Street, Antoine Goldschmidt et Hofer Smilanski, mettent en place leur installation lumineuse et musicale qui s'inspire de l'hymne des chérubins du compositeur russe Tchaïkovski. Pour cette œuvre, les deux artistes ont dû s'adapter à l'architecture particulière de l'église.
Pendant le festival, on va mettre en lumière toute la collégiale.
Antoine Goldschmidt.
On réadapte une œuvre qui est une œuvre qu'on a déjà présentée à Bruxelles, à Genève et même au Koweït, qui aujourd'hui elle va s'inscrire dans le lieu, profiter du genius loci de la collégiale pour magnifier l'espace et rendre la pièce encore plus belle.
Il y a des moments dans l'œuvre qui sont dédiés à l'architecture locale.
Hofer Smilanski.
À chaque fois, on sait qu'il y a une ouverture à ce moment-là qui explore l'espace ou l'architecture dans laquelle on travaille. Par exemple, normalement, notre pièce, elle est en 3 lasers. Ici, on a ajouté 3, du coup, il y a 6. Juste à cause de la particularité d'architecture. Et on ne peut pas juste venir mettre des trusses partout parce qu'on veut garder ça le plus minimal possible au niveau accroche et décablage et tout ça. Du coup, on était obligé d'ajouter plus et plus et plus parce qu'on s'est dit, ah, on regarde cette croix là en haut, il faut absolument qu'on arrive à l'atteindre, mais on n'arrive pas à l'atteindre avec les moyens qu'on avait jusqu'à maintenant. Du coup, à chaque fois, on ajoute, on développe pour chaque lieu.
En tout, ils sont une vingtaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux à exposer des œuvres lumineuses dans la ville. Il aura fallu un an pour mettre en place l'événement. Comme le détaille la chef de projet, Ilenia Borello.
C'est un projet transversal à la ville de Mons, donc on a rassemblé tous les services, on a créé ce qu'on appelle un comité de pilotage. Les premières questions, ça a été quel sera notre événement, notre Festival des Lumières à Mons, quelle sera notre propre identité par rapport aux autres, par rapport au paysage des Festivals des Lumières. Alors on a voulu s'inspirer de nos expositions de prestige et prendre ça un peu comme une expo, mais dans l'espace urbain, dans la ville, donc d'utiliser vraiment la ville comme un terrain de jeu. Et on a décidé en fait d'avoir chaque année un artiste guest, un artiste invité, avec une thématique. Cette année, la thématique, c'est le surréalisme et la poésie, parce que en 2024, on fête les 100 ans du surréalisme, et Mons a été un vivier important d'artistes surréalistes. Et puis, on a lancé du coup un concours, un appel à projet aux artistes. C'est comme ça qu'on en est venu à notre programmation finale. Et puis, en parallèle, forcément, on discute avec énormément de gens qui nous aident à rendre ce projet concret.
Car avant le concret, il y avait l'idée. Et cette idée d'un festival des Lumières, elle provient du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, qui a voulu ajouter cet événement au calendrier des activités de la commune.
J'y ai pensé en 2021, quand il a fallu travailler sur la stratégie de la ville de Mons sur ses fiches projets européennes pour obtenir des financements européens pour Mons-Borinage. Moi, j'ai proposé, en réfléchissant, une stratégie qui reposait sur un grand événement montois qui serait fait en collaboration avec, à tour de rôle, une commune boréenne chaque année. Pas seulement pour amuser la galerie, mais surtout pour rencontrer ma priorité numéro un, c'est la redynamisation du centre-ville de Mons, qui, comme tous les autres centres-villes de villes moyennes en Europe, a énormément souffert de la désertification commerciale. Cette stratégie a été retenue, puisque finalement tout le monde s'y est rallié dans l'arrondissement de Mons-Borinage. Ce qui nous a permis d'avoir une taille critique en termes de moyens financiers pour faire un bel événement annuel récurrent sur Mons. Et on a 6 millions pour le Festival des Lumières pour 6 éditions.
Avant que le centre-ville n'accueille les festivaliers, les organisateurs et techniciens se rencontrent pour s'assurer du bon déroulé de l'installation. Cette réunion se déroule à une semaine du lancement du festival. Alors, tout est finement chronométré. Pour Adrien Gliner, chargé de production, plusieurs acteurs accompagnent la mise en place du festival.
Ça demande énormément d'autorisation, de mettre autour de la table énormément de parties. Et au niveau purement technique sur le terrain, ça demande des régisseurs qui sont responsables de sites, de plusieurs sites en même temps, et qui peuvent nous faire remonter des problèmes sur les installations. C'est beaucoup plus compliqué qu'un festival, par exemple, de musique classique. Souvent, ce sont des plaines, on n'est pas forcément contraint par exemple la circulation, aussi les riverains, parce qu'on essaie aussi de gêner au moins les citoyens.
La question de l'impact environnemental du festival est aussi au centre des réflexions des organisateurs. Selon Adrien Gliner et Ilenia Borello, plusieurs initiatives sont mises en place pour réduire la pollution.
On est conscient que l'événementiel, ça pollue beaucoup. On est accompagné par Event Change, une association qui nous conseille sur justement tout ce qui est gestion des consommables, des colsons, et aussi une réflexion pour limiter au maximum l'utilisation de groupes électrogènes, se rajouter directement au réseau présent de la ville et au réseau ORES. Et on demande aux artistes utiliser du LED.
L'aspect durabilité était vraiment essentiel. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va ensuite voyager dans les autres festivals des Lumières et donc qui est réutilisé? Est-ce que c'est un one shot? Enfin, voilà. Donc, toutes ces questions se sont posées.
Même dans les transports, on essaie de limiter au maximum les transports pour éviter l'impact, un trop gros impact carbone du festival.
De leur côté, les artistes sélectionnés se réjouissent de présenter leurs créations aux quatre coins de la ville de Mons, comme le souligne Hofer Smilanski.
Et le cas particulier des festivals d'art est assez intéressant parce que ça a ouvert une voie pour des artistes comme nous. On est plus dans le milieu art numérique. Il y a des festivals d'art numérique, mais ils ne sont pas énormes. Mais cette opportunité que des festivals des Lumières donnent aux artistes comme nous d'art numérique, tout à coup d'exposer nos œuvres à l'ouvrir à des très grands publics, c'est génial. Je trouve que c'est une énorme opportunité.
À l'issue de ce premier festival des Lumières, trois œuvres resteront dans la ville pour continuer d'éclairer, encore un peu, les artistes d'ici et d'ailleurs, en attendant la prochaine édition.
Bouche à oreille.
Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation, et c'est livré par un membre de la rédaction.
8 ans après la sortie de leur dernier album, Colors, le groupe pop bruxellois Puggy fait son grand retour ce vendredi avec un EP intitulé Radio Kitchen.
Thierry Coljon du Pôle Culture a rencontré le trio Mathieu, Ziggy et Romain. Il nous raconte les coulisses de ce nouvel album.
C'est le grand retour pour Puggy, donc on a annoncé des dates. Ici, on s'attendait à un album, 8 ans après le précédent, et ce n'est qu'un hippie. Je dis que parce que c'est 6 titres. Alors ce hippie, en fait, quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit, on avait des centaines de chansons, parce qu'on n'a pas arrêté de travailler depuis 8 ans, mais on a voulu d'abord revenir avec un peu de chansons dont on était le plus fier, qui nous représentaient bien, et il faut reconnaître que c'est du Puggy, vraiment. À part peut-être le single Never Give Up, en fait le tout premier single qu'ils ont sorti l'an dernier. Surprenait un peu parce qu'il y avait de l'autotune dans la voix de Mathieu, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc c'était un peu différent, avec beaucoup d'humour pour le clip. Mais il faut avouer que les 5 autres morceaux, c'est du pur Puggy. C'est power pop un peu à la Coldplay, c'est-à-dire des mélodies vraiment très très fortes, ce qui est leur signature, donc des mélodies très pop. Et donc les fans vont être très satisfaits par ce EP et surtout par la tournée qui suit. Ils n'ont pas glandé durant 8 ans. D'abord, il y a eu une grande tournée. Donc, c'est en fait, c'est depuis 6 ans, en fait, qu'ils ont officiellement disparu en tant que Puggy. Mais ils ont travaillé. Bon, on a pu voir Matthew, le chanteur, comme coach à The Voice. Les deux autres, Romain et Ziggy, n'ont pas arrêté non plus. Donc la première chose qu'ils ont fait, ils ont investi dans un studio qui s'appelle Radio Kitchen, le titre du hippie, c'est avenue de la Couronne, ça ressemble à une cuisine. En fait, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Kitchen, parce que c'est très sympathique. Et donc Romain et Ziggy sont vraiment devenus des producteurs renommés, aussi bien en France qu'en Belgique. Ils ont travaillé avec Adé, avec Juicy, avec Alison Derouve, Charles Iseu, qui a d'ailleurs un duo sur leur hippie. À eux trois, ils ont réalisé aussi beaucoup de musique de films, de dessins animés pour le studio de Ben Stassen, N-Wave, donc ici à Bruxelles. Plusieurs dessins animés, donc Bigfoot, Inséparable. Parallèlement à ce qu'ils sont en tant que Puggy, ils sont devenus une véritable, disons, entreprise indépendante, libre, et donc ils peuvent se permettre aujourd'hui de ne faire que ce qu'ils veulent, avec un agenda. Voilà, ils voulaient d'abord faire un hippie, il y aura peut-être un deuxième hippie pour les festivals ou à la rentrée un album, ils ne savent pas encore. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, c'est sur leur propre label, qui s'appelle d'ailleurs Radio Kitchen, comme le hippie, et comme leur studio. Leur premier concert de grand retour, ce sera le 11 mars à la baie, c'est déjà complet. Alors ils reviendront à la baie le 28 septembre, mais en 30 ans, on les verra dans des grands festivals, aussi bien à Dour qu'aux Francopholies de Spa et aux Solidarités de Namur.
Merci Thierry Coljon.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin.
Merci de votre fidélité et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast.
À lundi.